Eh bien, frères et sœurs, notre monde d'aujourd'hui est plein d'opinions fortes et de ceux qui voudraient affirmer leur indépendance et leur force. Les individus sont appréciés pour leur assurance de soi, pour leur capacité à trouver un meilleur traitement que l'autre. Et grâce à Internet et aux médias sociaux, les gens peuvent aujourd'hui attirer un large public presque à tout moment et assez rapidement. On dit des choses montent en cadence virale aujourd'hui. Les gens aiment avoir un public aujourd'hui lorsqu'ils sont contrariés par quelque chose ou lorsqu'ils sentent qu'ils ont quelque chose d'important à dire. Notre société qui nous entoure aujourd'hui est pleine d'affirmations de soi. Si vous n'avez pas encore entendu l'expression « vous n'êtes pas mon patron », c'est très à la mode en anglais, « you're not the boss of me », on dit, alors vous êtes en minorité, parce que c'est une expression très à la mode aux États-Unis, et j'imagine que ce même esprit existe ailleurs aussi. Au milieu de tout cela, le chrétien est obligé de se retrouver dans des situations qui mettent son caractère à l'épreuve. On peut dire face à cette société qui est comme ça, ou quand on essaye de fonctionner dans une société comme elle est aujourd'hui. Il est possible que la douceur ne soit pas naturelle pour nous tous, parce que on essaye quand même d'opérer, de vivre dans une société, et des fois, on prend quand même des habitudes qui sont dans la société autour de nous. C'est peut-être même un domaine sur lequel nous pouvons ou nous pensons devoir travailler. Moi, en premier, comprenons-nous et pratiquons-nous la douceur? Depuis combien de temps n'avons-nous pas réfléchi sur cet aspect clé du caractère divin tel qu'il s'applique à nos vies? Dans le sermon d'aujourd'hui, considérons la signification de la douceur. Nous verrons qu'elle est souvent mal comprise, en particulier dans notre société moderne. Ensuite, nous examinerons de près comment la douceur a été démontrée à travers la souffrance que Jésus-Christ a choisi de supporter à notre place. Enfin, nous examinerons de certaines façons spécifiques dont nous pouvons pratiquer la douceur en suivant son exemple. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la douceur? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette question semble peut-être inutile. On a quand même un dictionnaire à côté, pourquoi pas. Mais avec le temps, les mots risquent d'être mal compris. Vous savez que le sens, la signification de certains mots change avec le temps. Comme le mot « douceur », d'autres mots semblent avoir perdu leur valeur ou leur vraie signification dans le monde d'aujourd'hui. Je vous donne ces exemples un peu plus modernes. Parce que selon un article du New York Times de décembre 2013, plusieurs expressions changent leur sens. Par exemple, 24 heures sur 7 jours ou 24 heures sur 24. Cette expression n'est plus, d'après le Times, n'est plus synonyme de disponibilité utile, d'être en avant disponible pour tout le monde, 24 heures sur 7 jours, évoque les mauvaises heures, des fois. C'est vu plutôt quelque chose de mauvais, de pas positif, parce que ça fait de la pression sur des personnes, par exemple. Le mauvais salaire et certains représentants du service clientèle dans un pays étranger essayant d'expliquer un câble HDMI à 3 heures du matin. Vous savez, vous avez un service clientèle, ça appelle en Inde, et eux, ils sont disponibles 24 heures sur 24. Et les gens pensent, même s'ils sont disponibles, des fois, ces gens-là ne comprennent pas mon problème à moi. Donc, l'idée d'être disponible est aussi quand même un peu corrompue aujourd'hui. OK, passons à un autre exemple. La fin de la journée. La fin de la journée ou la fin de la journée de travail. À l'époque, ça marquait une façon de compter la fin d'un cycle économique. quotidien. Mais la fin de la journée aujourd'hui est de plus en plus utilisée pour signifier autre chose d'une fermeture des affaires. Maintenant, les gens utilisent au bout du compte pour introduire un objectif final ou une vision à atteindre ou un but ultime. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui tourne 24 heures sur 24, il n'y a pas vraiment fin de la journée parce que vous fermez aujourd'hui, mais eux, ils continuent à bosser tout le temps. Quand est la fin de la journée dans cette économie mondiale? Donc, par exemple, nous avons des exemples ici de comment un peu, ce sont des exemples modernes, de comment le sens de certaines expressions, certains mots changent avec le temps ou avec l'usage. Mais qu'est-ce que la douceur? Que signifie Matthieu 5 et le verset 5? Considérons Matthieu 5 et le verset 5. Matthieu chapitre 5 et le verset 5. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle les béatitudes. Et donc, dans ma version, il est écrit un mot un peu différent, bon, mais dans d'autres versions, le mot « douceur » existe. Je vais vous lire de la nouvelle édition de Genève. « Heureux les débonnaires, ou les doux, car ils hériteront la terre. » Qu'est-ce que ça veut dire? La douceur est ici mentionnée parmi les sept traits de caractère dans les béatitudes. Par conséquent, il se forme à l'intérieur par Dieu et à travers son esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Le mot grec, prautes, est souvent défini simplement comme clémence, ou ici débonnaire. Les études de Vincent du Nouveau Testament disent que dans l'usage grec antique de prautes, Platon l'oppose à la férocité ou à la cruauté. Donc, on le met, pour la comprendre, on le met en opposition à la férocité ou à la cruauté. Un autre exemple, c'est dans le Complete Word Study du dictionnaire du Nouveau Testament, prautes veut dire se mettre en colère au bon moment, de la bonne mesure et pour la bonne raison. C'est une condition de l'esprit et du cœur qui fait preuve de douceur, et non pas dans la faiblesse, mais dans la puissance. C'est un équilibre né de la force de caractère. Donc on commence à comprendre la douceur comme pas quelque chose qui est résultat d'une faiblesse, mais d'une puissance, d'un pouvoir. Ainsi on arrive à ce que la douceur n'est pas. La douceur n'est pas la faiblesse. Pour beaucoup, la douceur est une chose du passé, une bagatelle inutile associée à des mœurs d'autrefois. En d'autres termes, la douceur n'est plus valorisée aujourd'hui. Elle n'est plus cherchée ou recherchée. Le dictionnaire de Webster définit la douceur, ou le mot « meek » en anglais, comme endurer une blessure avec patience et sans ressentiment. Cette définition semble assez juste, mais considérons les deux prochaines définitions qui ne sont pas très justes pour montrer comment ce mot a peut-être évolué. Ils disent, pour meek en anglais, ou la douceur, donc ils disent sans esprit ni courage. Ça attribue une certaine faiblesse à quelqu'un qui serait doux. Pour moi, c'est un peu une définition un peu décourageante même. Ils disent aussi, une troisième définition, pas violent et pas fort. Et encore une fois, on l'attribue plus avec la faiblesse et on enlève la partie du pouvoir, de la puissance, qui est censée d'être derrière le mot prautes en grec. Je ne suggère pas que nous réécrivons le dictionnaire, le sens du mot est ce qu'il est dans notre langue moderne. Mais je voudrais simplement souligner que les définitions modernes de ce que nous lisons dans notre copie de la Bible ne correspondent pas complètement à l'instruction biblique qu'on retrouve dans la Bible. Donc, des fois, il n'est pas suffisant, quand on fait une étude biblique, de simplement regarder le verset, trouver le mot en français et faire une recherche dans un dictionnaire français. Souvent, il est plus conseillé à regarder le mot grec et étudier le sens du mot dans un dictionnaire de grec ou dans une étude du Nouveau Testament. Donc voilà, pour nous souligner que des fois, il faut quand même faire attention à ne pas laisser perdre le sens de certains mots, certaines instructions bibliques. Par exemple, comment Dieu Tout-Puissant peut-il être doux si la douceur ne peut pas être associée avec la force? Comment Dieu pourrait-il être doux s'il est sans courage? Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Si on comprend le caractère divin comme un caractère avec plusieurs traits composés, plusieurs façades, plusieurs faces de ce caractère, on peut comprendre que la douceur fait partie de ce groupe de traits de caractère de Dieu. Mais la douceur n'est pas appréciée autant aujourd'hui. Il est clair que la douceur n'est pas appréciée. J'ai vu une fois un autocollant pour le pare-choc. Vous voyez ça ici, les autocollants pour déclarer certaines choses. Et celui-là déclarait fièrement « Menez, suivez ou sortez du chemin ». Vous pouvez lire des articles de n'importe quelle revue sur la façon de réussir votre carrière. Et vous constaterez aujourd'hui probablement que l'affirmation de soi est soulignée. Il y a quelques années, il y avait même un article dans le Wall Street Journal qui posait la question « Est-il normal d'être méchant au travail pour avoir du succès? » Est-ce qu'il faut qu'on se programme pour être méchant pour réussir au travail? C'était le cas de l'article. Est-ce que nous sommes obligés d'être méchants si on voudrait progresser dans l'entreprise? C'est ça la question qu'il pose. Il semblerait que la plupart des Américains considèrent qu'une forte personnalité ou une personnalité assez agressive est une condition préalable au succès. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça c'est biblique? Non. Vu que nous avons discuté ce que c'est la douceur et ce qu'elle n'est pas, regardons ce que la parole de Dieu dit à propos de notre exemple ultime de la douceur. L'exemple de la douceur de Jésus-Christ. La douceur, c'est une vertu de Dieu. La Bible nous révèle un récit étonnant à propos de la douceur. Le Fils de Dieu, le Logos, envoyé par le Père en sacrifice pour sauver l'humanité de la pénalité du péché, lui qui est mort sans péché. Il a beaucoup souffert. Le récit commence avant la fondation du monde, quand le plan de salut a été conçu. Même depuis, avant la fondation du monde, celui qui est devenu Jésus-Christ savait son rôle et l'accepterait avec volonté. Dieu a révélé ce plan en partie à ses serviteurs. Beaucoup ont quand même entendu qu'il y aurait quand même un serviteur qui allait souffrir quand même. Mais même les disciples de Jésus avaient du mal à croire qu'il passerait par là, n'est-ce pas? Donc la prophétie et les enseignements concernant son accomplissement sont préservés pour nous aujourd'hui. Le Messie a été prophétisé d'être doux parce que le Messie est le Fils de Dieu, un être de caractère parfait, Jésus-Christ est parfait comme son Père Et donc, son caractère parfait comprend aussi la douceur. Jésus-Christ, qui reviendra comme roi des rois, il va quand même rester comme il était avant, comme il est aujourd'hui, comme il sera pour toujours. Il a quand même été doux, il est doux, et il sera toujours doux. Donc, ça fera toujours partie de son caractère, même quand il reviendra sur la terre en tant que roi des rois, même dans la gloire et du pouvoir de son autorité sur la terre, il peut quand même rester et exemplifier la douceur. Nous n'allons pas nous reporter, mais 1 Pierre 1, verset 20, ainsi que Apocalypse 13, verset 8, les deux passages mentionnent le fait que le sacrifice de Christ était prédestiné. Nous ne prendrons pas le temps de nous tourner vers ces passages, mais où trouvons-nous l'écriture qui mentionne sa douceur? Considérons dans le livre des Psaumes, le Psaume 45, pour commencer, le Psaume 45, où la douceur est mentionnée comme une qualité du Messie à venir. Et pendant tout ce temps, considérant quand on lit ces choses, pendant tout ce temps, il était appelé le Tout-Puissant. Le fait qu'il est doux ne l'a pas forcé à enlever sa puissance. Il a gardé sa puissance, mais il était encore doux. Considérant le psaume 45, commençons au verset 4. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. La douceur. La douceur. Jésus-Christ a démontré aussi la douceur par son souffrance. Cette souffrance que le Christ endurerait est mentionnée dans plusieurs passages de l'Ancien Testament que nous connaissons, qui contiennent des prophéties sur Jésus-Christ. Un passage en particulier dépeint une image vivante de ce que Jésus a été prophétisé à traverser. Ésaïe 50. Ésaïe, chapitre 50, nous disons ici que même face à la persécution, il allait endurer, et il a quand même enduré ces choses sans péché. Ésaïe, chapitre 50, et le verset 5. Verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux rachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Avons-nous déjà vécu la persécution dans notre vie? Est-ce que nous avons reçu ce type de traitement? Et est-ce que nous avons pu répondre ou réagir jusqu'à ce point-là? C'est quand même un exemple puissant. Un exemple que Jésus-Christ a accompli. Il a accompli cette prophétie avec son exemple, avec ses choix. Ses choix avec sa conduite, avec son comportement, avec son attitude, avec sa mentalité, avec la façon qu'il traitait les personnes autour de lui. Il n'a jamais abandonner cette bonne voie de la douceur. Vous savez que la punition romaine de la crucifixion a été soigneusement conçue pour humilier, pour déshonorer, pour faire honte aux condamnés, autant que possible. C'était pas l'objectif juste de tuer la personne. C'était de bien humilier, faire de la peine à cette personne pour déshonorer. C'est l'un des pires moyens, d'après les historiens, de toute l'histoire que d'être humain ait jamais été puni pour le crime ou la rébellion. Pourtant, notre roi aux cieux a tout enduré sans rébellion, sans péché. Dans Ésaïe 53, Ésaïe 53 et le verset 7, nous voyons qu'en dépit de sa conscience de son futur rôle de roi des rois, Christ s'est humilié jusqu'à la mort. Ésaïe 53, nous pouvons lire le verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Il a été opprimé et affligé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Il a été conduit comme un agneau à l'abattoir, et comme un mouton devant ses tondeurs est silencieux. Il n'a donc pas ouvert la bouche. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, frères et sœurs, mais j'ai tendance à ouvrir ma bouche si je réagis d'après Daniel, l'ancien homme. C'est Dieu qui m'aide à ne pas réagir comme ça, à rester, comme ils disent, bouche bée, n'est-ce pas? De rester la bouche fermée, de ne pas réagir avec un commentaire, une réaction. Mais Dieu nous aide. Dieu nous change. Il change notre comportement. Il nous aide à changer notre comportement. Il faut que nous le fassions aussi, pour qu'on fasse notre part. Mais quand on considère l'exemple et la souffrance que Jésus-Christ a vécue, ça nous aide à comprendre que c'est quand même possible à ne pas ouvrir la bouche quand on est opprimé, quand on est affligé. En passant, ce verset est cité dans les livres des Actes, Actes chapitre 8 et le verset 32. C'est le passage dans lequel l'Éthiopien lisait quand il demanda de l'aide pour comprendre. On ne va pas y reporter. Mais c'est quand même un passage qui a touché cet homme au cœur, n'est-ce pas? Parce que juste après, il voulait se faire baptiser. Parce qu'il avait compris la souffrance de Jésus. Il avait compris l'attitude, le comportement de notre Sauveur. Mais du point de vue du monde moderne, on pourrait demander, d'un point de vue du monde, on pourrait dire, pourquoi ne les a-t-il pas empêchés de lui faire mal s'il était tout puissant? C'est ce que moi j'aurais fait, j'aurais dit, c'est ce que le monde qui parle, c'est pourquoi il ne réagit pas avec une défense pour se défendre, pour montrer, pour mettre en évidence son pouvoir. Le monde dit, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas eu de pouvoir, c'est pour ça qu'il a souffert, c'est ce que le monde dit. Mais il a eu, aux yeux du monde, il a eu l'opportunité d'éviter complètement la souffrance et la mort. En Matthieu 26, on peut y reporter maintenant, nous pouvons considérer ce passage, Matthieu 26, à partir du verset 51. Lorsque Judas l'avait déjà trahi, il a subi son arrestation. Et c'est bien clair, c'est bien indiqué que Jésus était au courant du cœur de Judas. Il l'a vu venir. Et il a quand même laissé passer. Il a laissé faire. Même avec une opportunité de fuir, de se cacher, comme il était au courant, il aurait pu s'en aller. Mais il est resté fidèle. Verset 51, Matthieu 26, verset 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, entendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Il était conscient du fait qu'il n'intervenait pas. Il n'allait pas intervenir. Il n'allait pas demander de l'aide de son Père pour protéger sa vie en ce moment-là. C'était pas sa priorité ultime de protéger soi-même. Quand il avait le pouvoir d'arrêter le tout, il a maintenu la volonté du Père, pas sa propre volonté. C'était un grand exemple de véritable douceur et de fidélité, mais une grande puissance était à sa disposition. C'était pas dans la faiblesse qu'il a fait comme ceci. Et c'est un point assez subtil, mais c'est quand même un point que nous devons comprendre pour bien comprendre comment on peut imiter et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire si on va devenir doux, si on va rester doux, si on va agir dans une manière douce. Alors le récit continue avec un faux témoignage et un traitement difficile à son jugement devant le grand prêtre. Verset 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Ah, ils cherchaient quelque chose pour l'accusation. Notez la fausse accusation. Comment vous sentez-vous quand quelqu'un vous accuse à tort? Devant vous, vous avez quelqu'un qui déclare un mensonge, qui invente des faits, qui vous caractérise, qui vous maltraite avec ses paroles. Comment allez-vous réagir? Comment allons-nous réagir? Jésus-Christ a réagi avec douceur. Il n'avait pas de faiblesse. Il était doux. Et il est doux. Verset 62 maintenant. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'injure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Wow! Quelle douceur en toute puissance, n'est-ce pas? Quelle douceur! Et c'est ça la définition que je voudrais souligner aujourd'hui. C'est que la douceur n'est pas une question d'être faible. On peut réagir avec douceur lorsqu'on est dans une position de pouvoir. Et c'est comme ça que vraiment la douceur ou la caractère de douceur est mis à l'épreuve. C'est que si nous sommes dans une position de pouvoir, nous avons le choix en ce moment-là. Si on est opprimé, si on est opprimé, si on n'a pas de puissance, si on n'a pas le choix, c'est quand même déjà un fait accompli qu'on doit faire ce qu'on nous dit dans un sens. On n'est pas obligé d'aller faire des choses contre la volonté de Dieu, mais vous comprenez ce que je vous dis. C'est que c'est quand on a la possibilité de choisir qu'il faut choisir la douceur. C'est ça que nous sommes en train d'apprendre. C'est comment choisir la douceur, comment ne pas réagir avec la nature humaine, mais comment agir d'après l'esprit en nous. Et c'est dans ces 7 semaines à venir que nous allons quand même essayer au maximum à nous aligner, à écouter quand même, et à sentir, à répandre à l'inspiration de Dieu et l'Esprit en nous. Il travaille en nous et à travers nous par son Esprit. Jésus n'était pas en train de s'échapper de ce traitement injuste. Il l'a vu avec ses deux yeux. Avec ses yeux, il a vu l'injustice devant lui. Mais il a parlé seulement la vérité en toute douceur. Nous avons souvent la tendance à se défendre, au lieu de rester en silence et de déclarer une simple vérité. Matthieu 27, maintenant, le chapitre suivant. Matthieu 27, le verset 11. Matthieu 27 et le verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. C'est un choix. Est-ce que nous maîtrisons nos paroles jusqu'à ce point-là? Ou est-ce que les gens sont capables de nous faire parler avec l'émotion sans réfléchir? Je sais que nous sommes tous à risque, moi en premier, de parler sans réfléchir. Vous pouvez demander à Madame Harper aussi. Faisons-nous l'effort pour s'améliorer à ce point-là. Sa douceur était parfaite. Verset 13. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Donc même à l'écart de ses accusations, il est dans le lieu intime avec le gouverneur. Maintenant, il a l'occasion, sans que les gens l'entendent, il peut quand même vider le cœur devant Pilate, n'est-ce pas? « Ah, Pilate, vous savez combien il m'accuse sans raison, sans la vérité, dans ce lieu intime avec Pilate. Est-ce que c'est en ce moment-là qu'il choisit de vider le cœur à Pilate? » Non, 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 non. Verset 14, « Jésus ne lui donnait de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. » Sa douceur était parfaite, tout comme sa récompense. L'apôtre Paul résume le récit dans Philippiens chapitre 2. Considérant Philippiens chapitre 2, Paul nous prie d'avoir le même esprit, de développer les mêmes traits de caractère que Jésus-Christ a démontré. Philippiens chapitre 2 et le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Paul se réfère à la récompense que Christ a reçue, mais Christ n'a point changé. Il est resté humble et doux. Il a toujours été d'un caractère parfait. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ça la récompense dont je parlais. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou, ça parle de la résurrection, n'est-ce pas? Ça parle des résurrections, n'est-ce pas? Tous les genoux. On est tout compris là-dedans. Sur la terre, sous la terre, il n'y a pas d'autres genoux. C'est tout. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que Jésus ne sera plus doux? Non. On est censé comprendre qu'il va toujours maintenir son caractère parfait. Pourrait-on jamais atteindre ce niveau de douceur? Avec l'aide de Dieu, les membres de l'Église sont censés de développer la douceur, de suivre le bon exemple de Jésus-Christ et d'aller, de progresser envers la perfection. C'est l'effort qu'on met en place qui nous donne l'occasion de croître. Parce que Dieu, il nous donne de l'aide, il nous renforce, il nous inspire si on s'appuie sur lui. Mais comment pouvons-nous prendre l'exemple de la douceur de Jésus-Christ et l'appliquer dans notre vie pour pratiquer et pour développer la douceur? J'ai 3 points. Numéro 1. Soyons des serviteurs. Avec notre esprit, avec notre main, avec notre vie, soyons des serviteurs d'autrui. Les mots du Christ dans l'évangile de Luc, chapitre 22, nous rappellent que la voie de l'affirmation de soi et de son pouvoir s'aligne avec la voie du monde qui mène à la mort. Considérons Luc 22, verset 25, où Jésus nous invite à penser différemment, à ne pas imiter les mauvais exemples que nous voyons autour de nous dans le monde. Soyons des serviteurs. Comment faire pour devenir un serviteur d'autrui? Luc 22, verset 25. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ici, nous avons quand même une comparaison qui existe entre le comportement de ceux qui sont dans le pouvoir dans le monde et de ceux que Dieu va mettre en pouvoir dans son royaume. C'est une très bonne comparaison. C'est une grande différence de comment ils réagissent envers leur sujet. Dans certains pays en Afrique, que j'ai visité, ce principe que les puissants devraient agir comme des serviteurs n'a jamais été compris. La douceur dans ces pays-là est normalement quand même compris comme une faiblesse. Et ça devient de plus en plus le cas ici, dans le monde entier, dans le monde occidental. Cet abus, l'abus de pouvoir par le mensonge, par l'oppression, par l'extorsion, par les choses comme ça, est devenu normal du niveau très haut jusqu'au niveau du dernier fonctionnaire sur la liste dans la position le plus bas de l'échelle. C'est un type de comportement où les plus forts profitent de ceux qui sont censés les servir. Est-ce que cela semble comme un cas un peu extrême? Malheureusement, pendant la plupart de l'histoire humaine et dans de nombreuses nations à travers les âges, ce modèle d'oppression a été le statu quo. Donc, nous avons quand même un exemple dans la vie de Jésus-Christ et de ses apôtres de comment devenir des serviteurs. La Bible est remplie d'exemples. Point numéro 2. Soyons prudents dans notre façon de réagir au mauvais traitement. Soyons prudents dans notre façon de réagir au mauvais traitement. Nous connaissons des exemples dans la Bible où les serviteurs de Dieu sont maltraités. Ça existe. Le fait que nous soyons des serviteurs de Dieu ne fait pas que nous soyons exempts d'un maltraitement. Au contraire, ça nous fait souvent le cible, n'est-ce pas, de mauvais traitements. Considérons Joseph, considérons David, considérant plusieurs des prophètes de Dieu. Est-ce qu'ils étaient bien traités? Est-ce qu'ils étaient toujours bien traités? Non. Mais leur récompense a été de Dieu, pas des hommes. L'apôtre Paul démontre un bon exemple de comment bien réagir lorsqu'il répond à un problème qui empêchait la croissance de l'Église du Nouveau Testament à Corinthe. Considérons 2 Corinthiens, chapitre 10. Intéressant qu'il commence ce chapitre avec le mot « la douceur ». 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. » Et puis il continue en mentionnant les luttes spirituelles en cours contre les disputes. Il aborde ensuite le sujet directement au fond du problème. Quelqu'un essayait de susciter la dissension contre Paul en disant qu'il était sans force. C'était une attaque contre son apostolat. Verset 8. Paul répond. Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent et en personne, il est faible. Et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absent, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présent. C'est une réponse très, très développée, très compliquée, très profonde ici. Son objectif était de montrer qu'il avait raison de se voir envoyé de Dieu. C'était pas un problème que Paul se voyait comme envoyé de Dieu, mais les gens voulaient l'attaquer pour ce point de vue sur lui-même. Il commence son argumentation en faisant appel à la clémence et à la douceur du Christ. Il leur rappelle que ces mots auraient pu être sévères. Il ne voulait pas être audacieux et sévère avec eux. Et donc, dans ce petit passage, nous voyons un contraste entre la douceur et la sévérité. La douceur implique la restriction et même la patience. Cela nous montre que la douceur est une bonne manière de faire face aux conflits ou aux conflits potentiels. Ceux qui menaçaient Paul l'ont peint comme faible. Mais bien qu'il leur ait semblé faible, il était en réalité doux. Pas faible, mais doux. Il n'était pas faible. Paul se concentre sur les besoins de l'assemblée, la congrégation, au lieu de ses propres besoins, de s'autodéfendre. Par conséquent, sa réponse n'est pas simplement une défense de lui-même ou de ses méthodes, mais c'est une réponse plutôt pour montrer l'exemple d'un chrétien vraiment doux qui ne se met pas en avant. Sa perspective est de chercher à servir Dieu. Il met l'accent sur l'idée d'être un serviteur, de servir Dieu, même quand son caractère a été mis à l'épreuve. Comment allons-nous répondre lorsqu'on nous met à l'épreuve, lorsqu'on nous critique, lorsqu'on dit des mensonges sur nous? Comment allons-nous répondre quand nous sommes frustrés, quand nous sommes offensés et quand Dieu nous permet d'être châtiés? Quand nous permet d'être châtiés, serons-nous tentés de répondre dans l'affirmation de soi, dans l'agressivité, ou allons-nous répondre avec la douceur, avec la clémence, avec la paix, avec un questionnement de soi? Point numéro 3. Rappelons-nous que Dieu nous corrige dans l'amour. Dieu nous corrige, mais dans l'amour, dans l'objectif de son amour, dans la motivation de l'amour, c'est ça qui motive Dieu à nous corriger quand nous avons besoin de correction. C'est son amour pour nous qui lui pousse à nous corriger. Hébreux chapitre 12 nous explique ceci. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignomie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est bien dans le contexte de l'amour que nous sommes censés de recevoir la correction, le châtiment du Seigneur. Dieu ne perd pas son sang-froid avec nous. Il a peut-être permis à sa voix de faire retentir de temps en temps, mais Dieu nous châtie toujours avec amour, avec une motivation de l'amour. et en parfaite connaissance de ce qu'il produit en nous. Il voudrait produire le caractère parfait en nous. Notre devoir, c'est de supporter des moments de châtiment avec douceur envers Dieu, cédant à sa volonté. Sinon, on devient des rebelles. On se met à l'écart, on met une distance entre nous et Dieu. Les versets suivants, dans Hébreux 12, nous encouragent à persévérer quand nous recevons le châtiment dans cette vie. C'est écrit pour peu de jours. Quand nous voyons nos vies pour peu de jours contre l'éternité dans la famille de Dieu, cela nous aide à acquérir une perspective et une bonne attitude envers le châtiment que nous recevons. Verset 7. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Dieu sait comment produire des fruits en nous. Il connaît nos besoins. Dieu nous châtie dans la douceur parfaite, avec une fin, un objectif, d'avoir un fruit qui se produit. Par le châtiment, alors que nous l'endurons avec la douceur, Dieu produit son caractère en nous, quelque chose qui va durer éternellement. Donc ça vaut le coup, n'est-ce pas? En conclusion, je crois que nous sommes capables de voir que la définition biblique de la douceur ne correspond pas du tout à l'idée commune que la douceur est étroitement liée à la faiblesse. Je crois que nous le comprenons bien. Il n'y a rien faible de Dieu ou en Dieu, mais il agit dans une douceur parfaite. J'espère que nous considérerons et serons souvent inspiré par la douceur et l'amour qui résonnent dans l'exemple de Jésus-Christ et son rôle dans le plan de salut. Pierre écrit de l'exemple parfait de la façon dont Jésus-Christ a enduré sans avoir commis le péché en 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Frères et sœurs, ce monde a besoin d'être guéri, à la fois physiquement et spirituellement. Nous sommes appelés à faire partie de la solution un jour, à partir de maintenant aussi, mais un jour pour régner sous l'autorité de Christ, lorsqu'il met fin à la souffrance. Il a souffert avec une douceur parfaite, et il est mort pour nos péchés afin que nous puissions vivre pour la justice.